Il est 8h sur France Culture. Antoine Donnécher, bonjour.
Bonjour. Le débat sur l'accueil des migrants, une nouvelle fois relancé en Allemagne après l'attentat d'Ansbach revendiqué par Daesh. C'est ce que nous dira Pascal Thibault depuis Berlin. Nous évoquerons aussi un autre débat qui traverse la classe politique allemande, cette fois-ci après la fusillade de Munich. Certains veulent contrôler le Darknet puisque c'est comme ça que le tueur s'est procuré son arme. Mais est-ce vraiment possible et est-ce une bonne idée?
Dans votre journal, Antoine Donnécher également, en Turquie, la purge continue. Le pouvoir d'Erdogan vient de délivrer des mandats d'arrêt contre 42 journalistes. Nous nous poserons cette question. Comment la Turquie, présentée comme un modèle innovant de stabilité dans la région, a-t-elle pu basculer si rapidement?
En France, la loi travail à l'épreuve du Conseil constitutionnel. Après la droite, vendredi, 61 députés de gauche opposés au texte ont saisi hier les sages de la rue Montpensier pour non-respect du débat parlementaire.
Enfin, d'ici 8h15, François Hollande a salué hier les militaires de l'opération Sentinelle. La France a besoin de vous, mais ces patrouilles sont-elles vraiment efficaces dans la lutte contre le terrorisme? Nous poserons la question au général Jean-Bernard Pinatel.
L'organisation État islamique a donc revendiqué hier l'attentat suicide de dimanche soir à Ansbach en Bavière. Un réfugié syrien débouté du droit d'asile et souffrant de graves problèmes psychiatriques a voulu faire exploser une bombe dans un festival de musique avant finalement de se faire sauter devant un restaurant. On rappelle le bilan, lui est mort, il a blessé également une douzaine de personnes. Les enquêteurs ont retrouvé sur son téléphone portable une vidéo dans laquelle il prête allégeance à Daesh. Cette nouvelle attaque, après celle dans un train en Bavière, également revendiquée par l'organisation djihadiste, relance le débat sur la politique d'accueil des migrants d'Angela Merkel. Pascal Thibault.
L'été s'annonçait serein pour Angela Merkel. Les bisbilles avec les conservateurs bavarois se calmaient, le nombre de nouveaux réfugiés s'était sensiblement réduit, la popularité de la chancelière et de son parti s'améliorait. Mais les attaques des derniers jours et l'implication de réfugiés menacent Angela Merkel, qui a décidé l'an dernier d'ouvrir largement les portes de son pays. Car si les événements des derniers jours font progresser les peurs des Allemands à l'égard des réfugiés, la coupable sera vite trouvée. La décision personnelle d'Angela Merkel sur un dossier central pour sa survie politique peut la fragiliser considérablement si la peur s'empare de l'opinion publique. Il n'est donc pas surprenant que les responsables à Berlin fassent tout pour calmer le jeu, pour rassurer leurs concitoyens en soulignant que, par exemple, l'auteur de l'attentat suicide de Ansbach vivait depuis 2 ans en Allemagne, avant donc l'arrivée massive de réfugiés l'an dernier. Le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, se refuse à toute panique et à toute décision précipitée pour ne pas donner l'impression que le gouvernement est sous pression. Mais certains responsables conservateurs et même le parti de gauche expriment des réserves sur une immigration aussi importante.
Pascal Thibault, le correspondant de RFI à Berlin, pour France Culture. En Allemagne toujours, dans le débat politique, conséquence de l'attentat de Munich, qui n'a rien à voir avec Daesh, rappelons-le, des élus de la CDU d'Angela Merkel réclament le contrôle du Darknet, car c'est sur cette face cachée du web que le tueur admirateur de Breivik a trouvé son arme, Yannick Hanebon.
Un animateur allemand très connu, Reinhold Beckmann, l'a essayé. Il y a quelques mois, il a tenté d'acheter une Kalachnikov sur le Darknet. Sa rédaction a déboursé 700 euros en bitcoin à un vendeur anonyme, mais le fusil n'est jamais arrivé. C'est vrai, on trouve des sites pédophiles de vente de drogue ou d'armes sur le Darknet, et parce qu'ils proposent des offres illégales, plusieurs hommes politiques allemands du parti de Merkel, la CDU, réclament déjà qu'ils soient très strictement encadrés. Une idée rejetée par Constanze Kurz, informaticienne et rédactrice pour le blog netzpolitik.org.
Je ne sais pas si on devrait présenter le Darknet comme une racine du mal absolu. Je trouve ça stupide. Il a des effets très positifs, notamment pour ceux qui doivent protéger leur communication. Réclamer qu'on bannisse ces services d'anonymisation utiles, je trouve que c'est une réaction à chaud. Réfléchi.
Il a suffi que la police bavaroise prononce une seule fois le mot de Darknet pour relancer la polémique. Les journalistes et hommes politiques qui ne cherchent à nourrir le mythe du Darknet oublient alors que c'est aussi un réseau qui permet d'accéder à des services comme Facebook dans des pays totalitaires qui censurent l'accès à Internet.
Explication signée Yannick Hanebon. 11 jours après le putsch raté, le président turc poursuit ses purges. Désormais, près de 60 000 personnes ont été arrêtées ou suspendues par le pouvoir d'Erdogan. Militaires, magistrats, hauts fonctionnaires, enseignants, universitaires. Et depuis hier, 42 journalistes sont sous mandat d'arrêt. Certains ambassadeurs ont été rappelés et la compagnie Turkish Airlines licencie plus de 200 salariés pour des lien supposé avec le prédicateur Fethullah Gulen, accusé d'avoir fomenté ce coup d'État depuis les États-Unis. Une purge en Turquie que nombre d'Occidentaux n'ont pas forcément vu venir, Cécile de Carvazoué.
En 2002, lorsque l'AKP, le parti islamo-démocrate, est arrivé au pouvoir, beaucoup d'Occidentaux applaudissaient des deux mains. Parfois avec une certaine naïveté, de nombreux journalistes et intellectuels vantaient alors ce modèle nouveau d'islam laïque au pouvoir. Johan Beer est responsable du bureau Europe de l'Est à Reporters sans frontières.
Une forme de naïveté peut-être, hein. On connaît bien effectivement le discours sur les idiots utiles des démocrates qui ont applaudi l'AKP, etc. Il n'en est pas moins qu'il y a eu de vrais progrès au début des années 2000 sur le plan de pas mal de libertés fondamentales, et y compris pour la liberté de la presse. Ensuite, évidemment, on peut le voir avec le recul que peut-être les autorités se sont servies de cet agenda proclamé de démocratisation pour mettre de côté l'ancienne élite liée à l'establishment militaire, etc., et les remplacer par des cadres plus proches de l'AKP.
Aujourd'hui, la Turquie occupe la 151e place sur 180 dans le classement mondial sur la liberté de la presse. Alors il ne faut pas croire que ce qui se passe aujourd'hui est un phénomène nouveau. Pour Murat Erpoyan, chargé de cours à l'INALCO, tout cela a été semé souvent hors de Turquie depuis le coup d'État militaire de 1980.
L'explication en grande partie réside dans cette théorie de ceinture verte autour du communisme. On a poussé l'islam dit modéré et on a essayé d'entourer les pays autour de l'Union soviétique par des gens croyants comme antidote du communisme. Mais le médicament avait des effets très pervers. On a créé un Ben Laden, après on a fait des erreurs catastrophiques à l'Irak, parce que effectivement le maître peut-être c'est la politique américaine, mais l'Europe a été tout à fait d'accord avec ça, et la Turquie fait partie de ce grand puzzle.
Il conclut parce que la Turquie c'est d'abord une géographie, or tout le monde semble avoir des intérêts à ce carrefour géostratégique.
Explication de Cécile de Carvazdoué.
France Culture, 8h07, la suite du journal d'Antoine Denecher. Les Libyens ne décolèrent pas contre la France depuis l'annonce mercredi dernier de la mort de 3 sous-officiers du renseignement près de Benghazi.
Une annonce suivie de la confirmation officielle de la présence militaire française en Libye. Le chef du gouvernement d'Union nationale dénonce une violation du territoire libyen et plusieurs milices basées à Benghazi appellent carrément à expulser les soldats français, le tout sur fond de manifestations anti-françaises ces derniers jours à Tripoli, Benghazi ou encore Misrata. Kader Abderrahim est maître de conférence à Sciences Po, chercheur à l'IRIS. Pour lui, la France, accusée d'ingérence, doit clarifier sa position.
Ça a provoqué une crispation autour de la France alors qu'elle avait été accueillie, on s'en souvient, à bras ouverts après la chute du colonel Kadhafi. Nous ne sommes pas très clairs sur les objectifs qu'on poursuit en Libye et on n'est pas très clairs sur la nature des alliances politiques que l'on cherche à nouer. D'un côté, nous avons effectivement soutenu le processus de l'ONU pour parvenir à cet accord qui a conduit à ce gouvernement d'union nationale. Et par ailleurs, nous avons découvert qu'il y avait des conseillers militaires français aux côtés des troupes du général Haftar et qui lui apportaient, sinon une logistique, au moins un conseil dans la manière de mener sa guerre contre Daesh. Et pour le moment, le général Haftar n'a toujours pas donné son accord à ce gouvernement. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Le conseil de la Shura, qui est constitué par un certain nombre de personnalités, demandait à ce que la France quitte la Libye, que les intérêts français soient dorénavant pas préservés ou même protégés, ni même envisagés, dans la mesure où le pays retrouverait sa stabilité institutionnelle et sécuritaire. Puis surtout, si nous avons encore une présence militaire plus importante que celle qui est déjà évoquée, on risque de se retrouver pris entre plusieurs feux, entre milices rivales, entre groupes islamistes rivaux. Donc c'est une situation qui est pas très confortable, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est une litote.
Kader Abderrahim, interrogé par Camille Revel. C'est désormais une certitude, l'épidémie Zika n'est plus cantonnée aux Antilles ou à l'Amérique latine, on le sait, et on apprend qu'un premier bébé atteint de microcéphalie vient de naître en Espagne d'une mère porteuse du virus. Selon une étude publiée hier dans la revue Nature Microbiology, plus d'un quart des bébés de mère infectés par le virus Zika, en effet, pourraient développer des problèmes, Hélène Masculier.
Une malformation du crâne, des troubles neurologiques ou des retards de croissance, ce sont autant de risques qu'encourt le fœtus si la mère a été infectée au cours de sa grossesse. Selon l'étude, des dizaines de milliers d'enfants pourraient être infectés. Alors comment le virus fait-il pour passer cette barrière du placenta? Il subsiste encore beaucoup d'inconnus, comme l'explique Jean-Claude Manouguera, qui travaille à la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur.
C'est probablement au moment où l'organogenèse a lieu, c'est-à-dire la formation des organes au départ, que des cellules sont affectées, probablement des cellules souches qui vont donner lieu au développement de structures nerveuses qui sont altérées par la multiplication virale et qui donc ne peuvent pas donner naissance à autant de cellules qui doivent construire le cerveau du fœtus.
Cette propriété était déjà connue pour d'autres infections virales comme la rubéole. Mais dans le cas de Zika, cela relève d'une surprise pour les chercheurs. Le risque d'une malformation congénitale reste la conséquence la plus grave d'une infection par Zika. À ce jour, dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé recense 1296 enfants présentant une malformation due au virus. Près de la moitié sont nés au Brésil.
Merci Hélène Masquelier. Le gouvernement, décidément, n'en a pas terminé avec la loi travail. Certes, le texte a été définitivement adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale, après l'usage une dernière fois du fameux 49-3 par le gouvernement. Mais après la droite, vendredi, voilà que 61 députés de gauche, communistes, écologistes et socialistes, comme le frondeur Laurent Baumel, viennent eux aussi de saisir le Conseil constitutionnel.
Nous, on n'a pas pointé l'inconstitutionnalité du contenu du texte. On a pointé l'inconstitutionnalité potentielle de la méthode qui a été utilisée pour l'adoption de cette loi. On aurait pu aller chercher dans le texte, et ce qu'a fait la droite? La droite a fait un recours. On aurait pu aller chercher dans le texte de la loi El Khomri des éléments qu'on peut juger inconstitutionnels au regard du principe d'égalité, au regard du principe de ceci, au regard du principe de cela. Nous, on a choisi en cohérence avec le combat qui a été le nôtre de pointer l'inconstitutionnalité éventuelle du recours au 49-3 dans les conditions où il a été utilisé, c'est-à-dire trois fois de suite, parfois en raccourcissant à l'extrême les délais d'examen parlementaire. Donc c'est cohérent avec la raison pour laquelle on avait utilisé la motion de censure.
Le député socialiste frondeur Laurent Baumel avec Maxime Fayolle. Avant la publication ce soir des chiffres du chômage en France pour le mois de juin, l'INSEE vient de publier ses dernières notes de conjoncture pour le bâtiment et le secteur se porte mieux, Anne-Laure Chouin.
Ce sont trois enquêtes trimestrielles qui viennent confirmer un mouvement amorcé il y a quelques mois. Les secteurs névralgiques de l'immobilier et de la construction reprennent du poil de la bête et c'est encourageant pour la suite. Un indicateur qui donne particulièrement confiance, celui du climat des affaires dans les travaux publics. En juillet 2016, les entrepreneurs indiquent une hausse de leur activité passée et à venir et leurs clients viennent aussi bien du privé que du public. Les perspectives d'embauche s'améliorent, elles aussi. On n'en est pas au niveau d'avant 2009, mais le redressement est notable. Quant aux promoteurs immobiliers, là encore, ils notent une augmentation de la demande de logements neufs pour la vente et pour la location. Augmentation qui va de pair avec une hausse des prévisions de mise en chantier. Conséquence, la conjoncture dans l'artisanat du bâtiment qui avait beaucoup souffert en 2014 et 2015 se redresse également. Les perspectives n'ont jamais été aussi bonnes depuis 2011. Des artisans du bâtiment qui connaissent par ailleurs moins de difficultés à recruter et qui recommencent à embaucher et à former des apprentis. La CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, enregistre un deuxième trimestre de croissance consécutif après 15 trimestres de recul. Ces petits entrepreneurs ne prévoient plus de licencier dans les mois qui viennent. C'est une première depuis 5 ans.
Explication d'Anne-Laure Chouin pour France Culture. C'est l'une des mesures que François Hollande a annoncées juste après l'attentat de Nice. En plus de la prolongation de l'état d'urgence, le chef de l'État a maintenu les effectifs de l'opération Sentinelle au plus haut niveau. Et pour afficher son soutien à ses 10 000 militaires mobilisés sur le terrain, le président était au fort de Vincennes hier. Il a annoncé notamment, sans donner de détails, que l'indemnité de sujétion spéciale d'alerte opérationnelle versée aux soldats allait être revalorisée. La France a besoin de vous, a martelé François Hollande devant ses militaires. Mais face à la menace terroriste, est-ce si sûr que ça? A-t-on vraiment besoin de Sentinelle? On se souvient par exemple que lors de l'attaque du Bataclan le 13 novembre, les militaires de Sentinelle n'étaient pas intervenus. Écoutez à ce propos la réponse de Jean-Bernard Pinatel, général retraité, expert en géopolitique.
L'opération Sentinelle, c'est une opération destinée à rassurer les Français dans les endroits où sont les soldats. Donc ce que nous considérons, nous militaires, c'est que c'est une opération de sécurité subjective dans la mesure même où l'ennemi, les terroristes, ont toujours le choix du lieu et du moment. Donc on sait très bien qu'ils ne vont pas attaquer là où il y a des militaires et ils attaquent toujours quand ils ont décelé un dispositif facilement contournable. Et aujourd'hui, dans le climat actuel, eh bien, rassurer dans les endroits où sont les militaires la population est une chose qui est positive. Toute la difficulté pour le commandement et le pouvoir politique, c'est de ne pas obérer les capacités militaires à un autre endroit, parce que les militaires sont quand même faits pour avoir des effets militaires objectifs et non pas uniquement de sécurité subjective.
Des propos recueillis par Marie Bonisseau. C'est peut-être l'avion du futur. Solar Impulse 2 a terminé cette nuit son incroyable tour du monde en atterrissant à Abu Dhabi. Capable de voler jour et nuit avec l'énergie solaire comme seul carburant, il a effectué 42 000 km et a été salué par Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui a exprimé sa profonde admiration pour cette expérience. C'est un jour historique, non seulement pour vous, mais pour l'humanité, a-t-il dit à l'adresse du pilote de Solar Impulse 2, Bertrand Piccard. La météo sur Terre, du soleil cet après-midi, malgré quelques nuages inoffensifs sur la moitié nord, à 19 à 23 degrés cet après-midi près de la Manche, 24 à 31 ailleurs, jusqu'à 34 près de la Méditerranée.